Au début des années 90, le régime tristement célèbre de l'apartheid, régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud, a été aboli. Et du jour au lendemain, ou presque, des lois de ségrégation qui existaient depuis des décennies dans ce pays et qui interdisaient aux non-blancs, non-européens de s'asseoir, par exemple, sur certains bancs ou de prendre certains taxis, etc. Eh bien, toutes ces lois qui existaient depuis des décennies ont été abrogées, ont été abolies. Parce qu'il y a eu ce changement de régime, et le changement de régime a donc rendu caduques, non pertinentes, ces lois. Et a libéré les citoyens non blancs de toutes ces restrictions qu'ils connaissaient depuis des années. Le chapitre 7 de la lettre aux Romains nous parle lui aussi d'un changement de régime. D'ailleurs, dans la lecture qui a été faite, vous avez peut-être entendu le mot « régime » qui était utilisé au verset 6. Alors, depuis le début de cette lettre aux Romains, l'apôtre Paul a montré à quel point la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection ont marqué un avant et un après dans l'histoire biblique, mais dans l'histoire tout court, puisqu'il s'agit d'événements historiques. L'apôtre Paul nous a expliqué que l'homme, livré à lui-même, est pécheur, c'est-à-dire qu'il est enclin, il a tendance à vivre sans reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie. Le péché, c'est plus que juste voler, tuer ou que sais-je, plus que des actes individuels, c'est une tendance générale à refuser l'autorité de Dieu sur sa vie. Et donc, en tant que pécheur, l'être humain se retrouve coupable aux yeux de son Créateur. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui cette condamnation. Il a accepté de subir le jugement de Dieu contre l'homme pécheur, mais il l'a fait à notre place, pour que nous puissions échapper à ce jugement, pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Donc ça, c'est l'idée vraiment forte, ce que Paul appelle la bonne nouvelle, cette idée qu'on trouve depuis le début de cette lettre aux Romains. Et au cours de ce développement que l'apôtre Paul nous livre, au chapitre 6, que nous avons vu dimanche soir, donc les deux dernières semaines, Paul a lâché en quelque sorte une sorte de bombe. Chapitre 6, verset 14, voici ce qu'il écrit. « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Alors nous, on entend peut-être ça tranquillement, on est peut-être habitué à entendre ce genre de choses, mais pour les premiers lecteurs de Paul, il faut prendre conscience du choc que ça pouvait représenter d'entendre quelque chose comme ça. Les lecteurs de Paul connaissaient la loi juive, d'ailleurs c'est ce que Paul dit au verset 1, et ils y étaient attachés. Certains d'entre eux étaient d'origine juive, pas mal d'entre eux sans doute, d'autres ne l'étaient pas, mais on a de bonnes raisons de penser qu'ils avaient été sympathisants du judaïsme, pour beaucoup d'entre eux, avant de se convertir à Jésus-Christ. Donc ils étaient attachés à la loi juive et ils la connaissaient. Alors comment est-ce que Paul, en écrivant cette lettre, peut laisser entendre que la loi de Dieu serait maintenant dépassée? Peut-être que même pour nous, ça paraît choquant de dire ça. La loi de Dieu serait dépassée. Pire, comment peut-il affirmer que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous parce que nous avons été libérés de la loi? Ah bon? Mais n'est-ce pas au contraire la loi qui devrait nous empêcher, nous aider à ne pas pécher? Donc là, il va falloir quand même que l'apôtre Paul s'explique. Et c'est ce qu'il fait en fait au chapitre 7. Et je vous propose d'examiner cette explication. On va le faire en deux points. En fait, il y a le pourquoi et le comment. On va d'abord voir pourquoi nous devons être libérés de la loi. Et ensuite, comment Dieu nous a libérés de la loi. En fait, on va procéder un peu en sens inverse par rapport au texte. Le texte commence par le comment, et puis ensuite explique le pourquoi. On va plutôt nous commencer par le pourquoi. Donc, pourquoi nous devons être libérés de la loi? On a tous fait face dans la vie, dans des petites comme des grandes choses, à ce qu'on appelle des cercles vicieux. Alors, je vais prendre un exemple de cercle vicieux. N'y voyez, c'est complètement au hasard, n'y voyez aucun rapport avec ma vie quotidienne, mais un jeune enfant qui dort mal parce qu'il est malade. Mais comme il est malade, eh ben il dort mal. Mais plus il dort mal, ou elle dort mal en l'occurrence, plus elle reste malade. Parce que pour guérir, il faut bien dormir. Donc plus elle dort mal, plus elle reste malade. Plus elle reste malade, plus elle continue à mal dormir. Comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà ce que c'est qu'un cercle vicieux. Eh bien, selon l'apôtre Paul, et dans un contexte autrement plus grave, la loi de Dieu enferme l'homme pécheur dans un cercle vicieux. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la loi n'est pas bonne? On en revient à cette question. Et comment est-ce que Paul pourrait dire quelque chose comme ça? Et là, l'apôtre nous donne une de ses réponses préférées au verset 7. Certainement pas. Certainement pas. Et au verset 12, il confirme, ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ouf! Il nous rassure. Mais alors, du coup, où est le problème? Eh bien, la réponse de Paul est assez simple, c'est le péché. Le péché qui est dans l'homme. Fin du verset 7. « Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et écoutons bien le verset 8 qui suit. « Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Il nous dit « les commandements de Dieu, ils sont bons, bien sûr, ils sont pour notre bien ». Mais parce que l'homme est pécheur, non seulement les commandements de Dieu révèlent le péché tel qu'il est, quelque part ils identifient le péché comme tel, mais ils deviennent même une occasion de péché, une occasion de transgresser la volonté de Dieu. Ça peut paraître étonnant, mais on voit ce mécanisme à l'œuvre dans la vie courante, là encore. Alors, je vais reprendre un enfant comme exemple. Allez dire à un enfant, surtout ne va pas ouvrir ce placard. Surtout ne touche pas à ce placard alors qu'il était en train de faire autre chose, de jouer. Et il y a peut-être une très bonne raison. Il y a peut-être des outils dangereux, des couteaux à l'intérieur. Quelle est la première chose qu'il va vouloir faire? Aller ouvrir le placard. Un exemple assez anodin, mais Paul parle d'une tendance bien plus grave de l'homme pécheur. Lorsqu'on lui impose un commandement, et lorsque Dieu lui impose un commandement, parce qu'il est pécheur, spontanément, il va avoir tendance à vouloir le transgresser. Et donc, c'est comme si le commandement suscitait la faute. Et c'est, je crois, ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit le verset 9. « Sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. » Alors, c'est un langage qui peut un peu surprendre, et les théologiens se sont posés pas mal de questions sur exactement ce que Paul veut dire très précisément dans ce verset. Mais l'idée centrale, elle est claire. Parce que l'homme est pécheur, la loi est devenue une occasion de désobéir à Dieu. Et quelle est la conséquence de ça? Eh bien là, il faut revenir au chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et là, on comprend la gravité de ce que nous dit l'apôtre. La loi de Dieu, verset 10, devait conduire à la vie. De même que dans l'exemple de l'enfant et du placard, c'est pour son bien qu'on lui interdit le placard. La loi de Dieu devait conduire à la vie. Mais, explique Paul, au lieu de mener l'homme à la vie, le commandement l'a mené à la mort. Alors ici, Paul parle en premier lieu de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'absence de relation avec Dieu, la rupture de la relation avec Dieu. Paul nous décrit un terrible cercle vicieux. Donc, plus il y a la loi, plus il y a le péché. Or, la loi dénonce le péché. Donc l'homme pécheur, face à la loi, il pêche de plus en plus, mais non seulement cela, il se retrouve de plus en plus désigné comme coupable par cette même loi. Pour illustrer un peu ça, imaginez un pays très corrompu. Il y a des pays dans le monde où la corruption est partout. Un pays où, pour obtenir de l'argent, eh bien, même, je ne sais pas, pour le versement de son salaire ou pour un emprunt bancaire ou quoi que ce soit, il faut verser un bakchich, un pot de vin. Imaginez maintenant qu'une loi stricte soit imposée, tous ceux qui ont versé des pots de vin doivent payer une très forte amende. Mais comme la situation du pays n'a pas changé et que la corruption est toujours partout, pour pouvoir payer l'amende, les gens vont devoir aller verser d'autres pots de vin. Et donc plus la loi est effectivement mise à exécution, plus les gens s'enfoncent dans la corruption et plus ils sont condamnés par la loi. Voilà un petit peu, pour l'apôtre Paul, quel est le dilemme de l'homme pécheur face à la loi. Alors quand il dit la loi, dans le contexte de cette lettre, Paul pense en premier lieu à la loi de Moïse qui a été donnée à Israël. Mais au début de sa lettre, Paul nous a dit que chaque homme, chaque être humain, a d'une manière ou d'une autre un sens du bien et du mal, une loi intérieure en quelque sorte, qui reflète plus ou moins bien la pensée du Créateur. Alors, le péché détourne aussi cette perception de la loi, mais elle est quand même là, il y a quand même des vestiges de cela. Or, pour Paul, plus on se place sous une loi, et ça c'est vrai à la limite de n'importe quelle loi, plus on se place sous une loi, qu'elle soit religieuse ou morale, plus on risque de constater qu'on n'est pas à la hauteur. Ça peut sembler sévère de dire ça et pessimiste. Mais si on est honnête, si on réfléchit un petit peu, on constate que nous sommes régulièrement en porte-à-faux avec nos propres principes, ceux que nous attendons des autres, par exemple, ceux que nous imposons aux autres. Par exemple, on a de grands principes humanistes, mais au quotidien, on passe son temps à juger et à critiquer tel collègue, tel membre de la famille, telle personne. Donc l'humanité, c'est magnifique, etc. Mais quand il s'agit de la personne que je vois tous les jours au bureau, là, c'est complètement autre chose. Ou bien on a de grands discours sur le déclin de la société, ou peut-être sur l'exploitation des femmes, mais peut-être qu'à côté de ça, on consulte parfois des sites pornographiques. Là, l'exploitation des femmes, on est en plein dedans. Ou bien on attend des autres qu'ils soient disponibles et généreux à notre égard, et s'ils ne le font pas, on va le prendre très mal, et on va les critiquer pour cela. Mais on aura beaucoup de mal, peut-être, à leur accorder nous-mêmes notre temps et notre soutien. Alors, je ne veux pas noircir les choses, ce n'est pas toujours comme ça. Mais voilà, nous constatons régulièrement que même avec nos propres principes, nous avons beaucoup de mal à être à la hauteur. Alors que dire de la loi de Dieu, de la loi parfaite de Dieu? Et rappelons-nous comment Jésus a résumé cette loi de Dieu. On demande à Jésus, en gros, je paraphrase un peu, comment est-ce que tu résumerais toute la loi de Moïse? Et voici ce qu'il répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je constate qu'il n'y a pas un seul jour où j'aime vraiment le Seigneur de tout mon cœur, absolument tout, il ne manque rien à mon amour pour le Seigneur, de toute mon âme, de toute ma force, toute mon énergie du jour, elle est consacrée à aimer le Seigneur, de toute ma pensée. Non. Et il n'y a pas un seul jour où je peux dire à la fin de la journée, aujourd'hui j'ai vraiment aimé mon prochain comme moi-même. J'ai accordé autant d'importance au bien-être de mon prochain qu'au mien. Non. La loi est bonne, nous dit Paul. Elle est juste, elle est sainte, mais face à elle, nous sommes encore et encore trouvés coupables. Et je crois que c'est ce que Paul décrit de façon si poignante au verset 14 à 25. Alors juste quelques mots d'introduction, parce que ce passage, les versets 14 à 25, est très débattu. Pour beaucoup de lecteurs et commentateurs, Paul parle ici de son expérience en tant que chrétien. Après tout, il utilise la première personne du singulier et il parle au présent. Donc il est assez naturel de se dire, il parle de lui et il parle en tant que chrétien. Et donc très souvent, on utilise ce texte pour illustrer la lutte intérieure que vit tout chrétien entre les tendances naturelles qui nous amènent à pécher et en même temps le désir au fond de notre cœur de plaire à Dieu. Et cette interprétation a des arguments en sa faveur. Mais je vous avoue que personnellement, je trouve plus convaincante une autre lecture de ce texte qui, à mon sens, tient mieux compte du contexte de ce chapitre. Selon cette lecture, Paul ne parle pas ici de sa propre expérience personnelle en tant que chrétien, mais illustre ce qu'il a expliqué au début du chapitre. Si on revient au verset 5. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Tout le monde reconnaît là, à propos de ce verset, que Paul parle non pas de la vie chrétienne, mais de l'ancienne vie dominée par le péché, un péché, comme on l'a vu, renforcé par la loi de Dieu. Or, les versets 14 à 25, il me semble, redisent la même chose et développent ce que Paul vient d'expliquer là. L'homme qui cherche à être trouvé juste aux yeux de Dieu par son obéissance à la loi ne peut que considérer encore et encore qu'il n'y arrive pas. Versets 19 et 20, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » C'est plus qu'une lutte, ici, dont Paul parle. C'est un esclavage. Au point que Paul peut dire, c'est même plus lui qui agit. L'homme dont il parle ici est vendu au péché, verset 14, hein, c'est ce que dit le texte. Il est vendu au péché, vendu en esclavage au péché. Donc oui, il veut être un bon croyant, et Paul pense sans doute à un bon juif qui veut obéir à la loi de Dieu, mais il en est incapable. Et ça le conduit au désespoir. Verset 24, « Malheureux être humain que je suis, malheureux !» Or, qu'est-ce que Paul a passé la première moitié du chapitre 6 à nous dire ? Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Chapitre 6, verset 17. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves, mais de la justice. Paul donc nous a proclamé avec force au chapitre 6 que cette vie d'esclave du péché, elle est terminée pour ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Comment pourrait-il faire marche arrière, un chapitre plus loin, et dire à propos de lui-même en tant que chrétien, « Je suis vendu au péché », verset 14. Le débat existe et il est légitime sur ce texte, mais je crois donc qu'il est beaucoup plus probable que Paul utilise la première personne, comme il l'a fait d'ailleurs un peu plus tôt dans le même chapitre, pour dramatiser en quelque sorte son propos. Et peut-être aussi parce que ça lui rappelle son passé, lorsqu'il s'efforçait d'être un juif irréprochable. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte dans la vie chrétienne. Ça se saurait. Ou que le péché n'a aucun impact sur nous. Paul en parle ailleurs, dans d'autres textes, même dans cette lettre aux Romains. Et le reste du Nouveau Testament en parle également. Mais on verra au chapitre 8... et pour ça, il faudra revenir dans les semaines qui viennent, que la vie chrétienne, oui, elle comporte des luttes, mais elle n'est pas fondamentalement une lutte. La vie chrétienne est une vie de liberté, vécue par la puissance du Saint-Esprit. Et on note que le Saint-Esprit n'est pas mentionné une seule fois dans les versets 14 à 25. Cela dit, quelle que soit notre interprétation de cette deuxième moitié du chapitre, le fait est que nous pouvons parfois, et peut-être même souvent, nous retrouver en quelque sorte dans cet homme malheureux qui est décrit là. Parce que justement, si nous cherchons à être trouvés justes aux yeux de Dieu par notre obéissance à la loi, eh bien très vite nous allons nous retrouver dans la situation de cet homme qui prend conscience qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y arrive pas. Et plus il essaye d'obéir aux commandements, plus il constate que face à eux, il est coupable. Et donc ce texte est bien pertinent, même pour nous qui sommes chrétiens, parce que souvent, nous cherchons encore notre justice, notre justification devant Dieu, dans notre capacité à obéir à la loi. Mais la réponse, Paul nous la donne, Jésus-Christ nous a libérés. Et c'est notre deuxième point qui sera plus bref. Comment Dieu nous a libérés de la loi ? Il y a plusieurs mois, un de mes amis d'enfance est décédé accidentellement. Alors j'avais plus beaucoup je ne voyais plus très souvent, mais on avait quand même un petit peu de contact de temps en temps. Et c'était un homme qui passait par des temps très difficiles depuis bien longtemps. Et qui notamment avait eu de graves problèmes avec la justice. Il avait commis un acte assez grave et il risquait l'emprisonnement, il attendait son procès. Il le reconnaissait, il en était conscient et était lucide sur ce qu'il avait fait. Et puis il y a eu cet accident et il est décédé. Et quelque temps après avoir appris avec tristesse et stupéfaction ce drame, quelque temps après donc, pas tout de suite, je vous rassure, mais une pensée un peu bizarre m'est venue. Je me suis dit, au moins, ces ennuis judiciaires sont terminés. Alors, ça peut paraître choquant de le dire comme ça, mais voilà, je vous livre la pensée telle qu'elle m'est venue. Le fait est qu'une fois qu'un homme est mort, la loi ne peut rien contre lui. Eh bien, c'est exactement ce qu'explique l'apôtre Paul au début du chapitre. Verset 1. « Ignorez-vous, frères et sœurs, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit ?» Et Paul va illustrer ce principe au verset 2 et 3 en expliquant que, par exemple, quand un homme meurt, sa femme n'est plus mariée avec lui parce que la mort met fin à la réalité juridique du mariage et donc la femme peut se remarier si elle le souhaite. C'est une image que Paul utilise, hein. Il ne commence pas tout un nouveau thème sur le mariage, le deuil, le remariage, etc. C'est vraiment une illustration qu'il nous donne. Et donc il ne faut pas chercher à décrypter cette image dans tous les sens, à se demander qui représente la femme, qui représente, etc. Non, c'est juste une image. Ce que Paul veut montrer, c'est simplement que la mort met fin à l'emprise de la loi. Mais alors, où est-ce qu'il veut en venir avec ça? Eh bien là, rappelons-nous ce que nous avons vu au chapitre 6 pour ceux qui étaient là. Paul nous a expliqué qu'en plaçant sa foi en Jésus et en se faisant baptiser, comme Genova ce soir, on exprime sa solidarité avec la mort de Jésus sur la croix, on se solidarise avec la mort de Jésus et avec sa résurrection. C'est comme si, par la foi, on attache sa vie à la mort et à la résurrection de Jésus. Si j'ai reconnu en Jésus mon Sauveur et Seigneur, eh bien c'est comme si l'ancien moi était mort à la croix avec lui, en subissant la condamnation pour tous mes péchés, et le nouveau moi est ressuscité avec lui et peut vivre une vie nouvelle. Je pense que Paul vous en a parlé tout à l'heure, Paul, notre Paul, mais j'étais derrière, donc je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais je pense que ça devait être à peu près la même chose. Voilà donc ce que symbolise le baptême. Et j'espère qu'on saisit bien la force de ce que nous dit l'apôtre à ce sujet. Verset 4. « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » Donc Paul nous dit que le pécheur condamné que nous étions, il est mort aux yeux de la loi. Cet homme-là qui était coupable, il est mort avec Jésus sur la croix. Et donc, la mort de Jésus sur la croix a soldé notre compte, si vous voulez. Et par conséquent, si nous avons reçu par la foi cette mort, eh bien, la loi ne pourra plus nous condamner. La mort de Jésus a clos notre dossier juridique, si vous voulez, pour toujours. Et c'est désormais un nouveau moi qui vit. Et là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais concrètement, le nouveau moi, ben, il pêche encore, trop souvent. Et donc, est-ce que ça ne veut pas dire que je vais être à nouveau condamné par la loi? Et c'est là que la bonne nouvelle, l'évangile, resplendit dans toute sa force. Ce verset, il faudrait l'encadrer. Verset 6. « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. » Paul nous dit que nous avons changé de régime. Nous ne sommes plus évalués dans notre relation avec Dieu en fonction de notre obéissance à la loi. Ce qui détermine notre relation avec Dieu maintenant, si nous avons placé notre confiance en Christ, c'est le choix de Dieu d'entrer dans une relation intime et personnelle avec nous par sa grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendra moins aimés. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendra moins pardonnés. C'est ce que Genova elle nous disait tout à l'heure dans son témoignage. Elle avait eu du mal, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, à comprendre cela. Cette tendance à avoir peur de « j'ai fait quelque chose de mal, ben j'ai peut-être perdu la faveur de Dieu ». Mais Dieu a choisi de nous pardonner, non pas en fonction de notre capacité à obéir, mais parce que Jésus-Christ a subi à notre place les conséquences, la condamnation que nous méritions effectivement, mais qui est tombée sur lui au lieu de tomber sur nous. Alors maintenant, attention, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'obéir à Dieu? Paul a quand même passé pas mal de temps dans cette lettre à dire « jamais de la vie », non, certainement pas. Bien sûr que si, on est appelé à obéir à Dieu. On doit obéir à Dieu, c'est un devoir. Nous appartenons à Jésus, verset 4, celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc si nous sommes nés à une vie nouvelle, ce n'est pas pour revivre comme avant, ce n'est pas pour vivre une vie ancienne, mais c'est pour vivre une vie d'obéissance. Et Paul va développer ce point au chapitre 8. Mais notre relation réconciliée avec Dieu, elle est définitivement garantie parce que cette relation ne dépend pas de notre capacité à obéir à la loi. Elle nous a été offerte par Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour subir notre condamnation à notre place. Voici ce que le même apôtre Paul écrit dans une autre de ses lettres, la lettre aux Colossiens. Très beau verset, Colossiens 2, 14, voici ce qu'il écrit. Il, c'est-à-dire Dieu, a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Donc l'acte d'accusation de la loi contre nous, cet acte qui nous déclarait coupable, Dieu l'a cloué à la croix, nous dit l'apôtre Paul dans ce verset. Si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, Dieu ne nous condamnera plus jamais. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle d'une bonne nouvelle. Ce n'est pas une façon de parler, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors que faire lorsque nous constatons le péché dans notre vie? Parce que ça risque d'être régulièrement le cas, malheureusement. Eh bien, nous sommes appelés non pas à lutter par nos propres forces. Alors, je veux bien me faire comprendre. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer de la discipline dans notre vie et consciemment travailler dur à changer notre comportement, oui. Mais il ne s'agit pas d'essayer de lutter pour obtenir à nouveau la faveur de Dieu que nous aurions pu perdre, mais plutôt de puiser dans cette relation libre avec Dieu par la prière, en faisant appel à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit et en déclarant avec foi « Je ne suis plus cet homme ou cette femme condamné, j'ai été libéré. Seigneur, travaille dans mon cœur. Aide-moi à me détourner de ce que tu n'aimes pas. Aide-moi à utiliser cette liberté que tu m'offres pour faire ce qui te plaît. Je t'appartiens. Tu m'as libéré. Et je veux librement t'obéir. Pas par crainte de ce qui pourrait m'arriver si je n'obéis pas, mais parce que tu m'as libéré et que je veux vivre cette vie de liberté. Voilà ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà ce que Génova a déclaré ce soir en se faisant baptiser. Et voilà ce que chacun d'entre nous est invité à vivre. Amen.